Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio où les idées circulent librement, où les micros s'animent et où les échanges prennent vie à chaque instant. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 en plein cœur de ce magnifique parc de l'hôpital de Malévo en face de la cafétéria. Alors s'il y en a qui nous entendent et qui ont envie de venir nous retrouver, il y a encore de la place autour de la table et même sur les bancs à l'ombre, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos participants du jour, Ibrahima, Mathieu, Erina, Delphine, Diana. On a Gabriel Zenia qui sera pour la rubrique et... on a notre retour en direct de notre presse vacancière. Hein, non, vous avez pris quelques vacances.
J'ai déménagé en fait, donc j'ai pas trop eu le temps de venir à la radio. Mais vous remarquerez que j'ai quand même des animaux sur mon t-shirt.
Vous avez bien reconnu la voix très énigmatique et symbolique d'Eliane qu'on retrouvera prochainement avec sa rubrique, la ménagerie d'Eliane. Au programme cet après-midi, les rencontres de Marie-Claude. On passera par un thème proposé par nos participants du jour autour de l'égalité, hein, qui a déjà commencé à mettre quelques petites discussions déjà en œuvre. On passera par science-fiction. Bonjour Gabriel. Alors, on va donner un micro à Gabriel. Bonjour.
Oui, je n'avais pas de micro. Bonjour, ouais. Bonjour tout le monde.
Ouais. Gabriel, vous avez vu quand même, c'est la première fois que j'ai réussi à le dire correctement. On n'est pas si mal. Je pense que c'est un jour à noter sur le carnet.
C'est la première fois et peut-être que c'est la dernière. Non, on va voir. Réessaye pour voir. Ouais.
Science-fiction.
Bravo.
On est pas mal. Et on terminera avec un thème qui clôturera notre émission, un thème on pourrait dire en phare de la fin de cette semaine, c'est la fête de la musique. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission que vous retrouverez dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. On retrouve les rencontres de Marie-Claude. Chaque jeudi, une personnalité se raconte autour de Malévo et de son parcours. Aujourd'hui, Marie-Claude Cudry a rendez-vous une nouvelle fois avec Gustavo Goldenberg. Gustavo Goldenberg, un médecin, et vous l'entendrez à son accent chantant, il est argentin. Le travail ici peut être très prenant, mais il est aussi important de savoir fermer la porte. Écoutons Gustavo Goldenberg.
C'était toujours une journée remplie, avec plein d'activités différentes, en tant qu'assistant une chose, en tant que chef de clinique une autre, en tant qu'adjoint une autre, évidemment, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de contacts, des discussions, des réunions, des réseaux avec les familles, réseaux avec des employeurs, etc., etc., etc. Mais il y a une chose, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, je crois que j'ai eu cette chance, je le dis pour moi, qui était la chose suivante. À la fin de la journée, oui, j'étais fatigué, mais comme on dit habituellement, je pourrais tirer la prise. C'est-à-dire que j'allais chez moi, et puis pour moi, l'hôpital, c'est fini. Les patients, c'est fini. Ça ne veut pas dire que je ne lisais pas quelque chose pour le lendemain. Mais tout ce qui était des problèmes ou autres restait ici. Et demain, on va continuer, on va trouver la solution et on va régler la chose. Mais ici, pas chez moi et pas encore en famille. Comme on dit, ma famille, « Mais tu ne racontais jamais rien. » Non, je ne voulais pas raconter quoi que ce soit des complications et autres que je trouvais à l'hôpital. Que ce soit relationnel avec des collègues, que ce soit avec des patients ou des familles ou autres, moi, je les épargnais. Peut-être que j'ai bien fait, peut-être que je n'ai pas bien fait, mais je les sentais comme ça et c'est ça comment j'ai fait.
C'est une sacrée discipline de laisser ici à Malévo.
Mais c'était naturel, c'était inconscient, ce n'était pas quelque chose de voulu. J'ai fermé, j'étais content de fermer la porte de mon bureau et aller chez moi et puis dire la journée est finie ici. Je continue avec d'autres choses. Aller au théâtre, écouter la musique, lire un livre, manger en famille, etc., etc. Mais c'est fini, l'hôpital reste ici et puis pour continuer demain, quoi, jusqu'au dernier jour.
Est-ce que vous pouvez raconter s'il y a eu un grand bonheur et une grande déception?
Alors, des bonheurs, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai oublié de nommer, entre autres activités, les on a conformé un groupe qui a travaillé avec des proches des familles avec schizophrénie. On avait reçu tous les documents concernant ces groupes et on a travaillé avec plusieurs collègues, infirmières en général. Et moi, j'étais à l'époque le seul médecin qui participait aussi. Et la question de le bonheur, c'était écouter les familles, parce que c'était un long travail, hein, 4 heures de réunion, chaque 2 semaines. Et on a eu très peu d'abandon. Et puis, ce n'est pas 2 réunions, c'est 14. Et puis, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en travaillant avec la famille, on les protège déjà. On les protège de la fatigue et puis de l'effondrement. Et de l'autre côté, ça change la relation entre la personne malade et puis la famille. Et ça, ça augmente la stabilité du système, la stabilité du patient et de la famille. Alors, on a vu, et on a vu avec nos yeux, parce qu'on l'avait lu dans des travaux scientifiques qui prouvaient ça, que les gens qui venaient, imaginons, chaque 2 mois à l'hôpital, ils ne venaient plus, parce qu'ils étaient stables. Et une fois, en ville de Martigny, je me suis occupé de cette personne, hein, en tant que malade ici. Et puis, je travaillais avec ses parents plus tard. Et puis, elle me dit, « Ah, bonjour docteur, comment allez-vous? Bien, bien. Ben. Alors, je voulais vous dire que vous devez continuer avec la thérapie avec mes parents. » J'ai dit, « La thérapie avec vos parents? Oui, le groupe que vous faites. » Mais je dis, « Mais ce n'est pas une thérapie. Peu importe. Mais maintenant, je vais lui rendre visite. » On se réunit en ville de Martigny. On boit un café. Tout se passe bien. Et là, continuez avec la thérapie avec mes parents. Alors, OK, c'est avec ces mots qu'elle expliquait que indirectement et directement, elle bénéficiait aussi de ce qu'on faisait pour ses parents. Et là, c'est le max qu'on peut obtenir. Une fois, on était dans un caveau parce qu'il y avait une réunion avec quelqu'un qui chantait, avec un groupe de proches, et puis une dame qui me dit, j'aurais jamais imaginé que je pouvais faire une chose pareille. Venir dans une réunion le soir, comme ça, avec musique, avec discussion, avec tout ça, ben, jamais, jamais auparavant. Parce que les gens, et malheureusement, les gens ne s'octroient pas cette permission de faire ce que monsieur et madame tout le monde fait finalement, parce qu'on s'occupe du proche. Alors voilà, et finalement tout ce qu'on lit théorique, on le voit en pratique, et ça c'est magnifique, ça c'est magnifique.
Les rencontres de Marie-Claude.
L'importance de la parole ici dans la relation de soignants et patients et aussi l'importance des proches aidants. Il ne faut pas oublier. Prochain épisode de cette rencontre avec Gustavo Goldenberg, jeudi prochain. À l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Alors, Eliane et tous les autres autour, on a entendu quand même pas mal de choses. Une journée bien remplie, beaucoup de contacts. Il y a une expression qui m'a beaucoup touché, c'est tirer la prise, hein, où les problèmes finalement de la journée ne doivent pas rester et ne doivent pas venir empiéter à la maison, hein, pas de discussion en famille. On a entendu parler de ce magnifique gros groupe de famille, on pourrait en parler après, sur les groupes pro-famille, et puis l'importance de la famille dans le rétablissement. Alors, je ne sais pas, que pensez-vous des relations entre soignants et patients? Alors, Eliane, on vous écoute.
En écoutant la chronique de ce monsieur, j'ai trouvé fabuleux qu'il ait la faculté de pouvoir tirer la prise, comme l'a dit Jimmy, lorsqu'il quitte son travail. Je trouve ça, pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. Et j'ai trouvé aussi que c'est un grand privilège pour un soignant d'entendre et surtout comprendre vraiment le patient et ses proches.
Ben merci Eliane déjà d'avoir pris pu nous donner un petit peu votre témoignage sur ce que vous avez ressenti. Alors je ne sais pas pour les autres, Mathieu, par exemple, quand, quelle est la place de la famille dans le rétablissement? Parce qu'on parle de proche aidant, on parle qu'on a mis en place des groupes, d'ailleurs, qui s'intitulent Pro-Famille, ou aussi on peut avoir spécifiquement sur les troubles bipolaires. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir sur le site de Synapse Espoir, vous trouverez les contacts, hein, vous allez pouvoir faire ces rencontres. Mais quelle est la place pour vous, ou selon vous, est-ce que la famille a une place dans le rétablissement et aller mieux quand on a une cassure dans la vie ou un trouble psychique?
Oui, il n'y a que ça qui aide. Il n'y a que ça qui aide, les parents.
C'est-à-dire?
Bah, c'est ceux qui nous ont fait, ils nous aiment. Et voilà.
Et quand vous dites il n'y a que ça qui aide, c'est quoi qui aide
de... On parle de notre souci.
Alors, oui, on va vous laisser mettre le micro un petit peu. Donc, parler de votre souci. Est-ce que vous, vous avez, par exemple, si vous êtes d'accord d'échanger avec nous, est-ce que vous avez, avec vos proches, une facilité à dire les choses? Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le temps facile de dire à ses proches de quoi on souffre. Comment ça se passe pour vous?
Non, moi, toute ma vie, je n'ai jamais osé parler à mes parents vraiment de ce que je ressentais au fond de moi. Mais récemment, je l'ai fait et puis ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir sauter le pas? Parce que c'est vrai que vous avez dit, c'est pas facile, je ne l'ai jamais fait. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi encore dans l'hésitation, la difficulté, vous, qu'est-ce qui vous a permis de passer le pas?
La peur de la mort.
La peur de la mort?
Oui.
C'est-à-dire?
La peur de la mort.
Donc le fait d'avoir peur de mourir, vous êtes allé voir vos proches pour leur dire « voilà, je me sens en danger, je ne vais pas rester seul avec ces idées, avec ces pensées, j'ai besoin de soutien » et vous êtes allé aux plus proches qui sont vos proches et vous avez... Est-ce que vous aviez eu peur d'être finalement pas entendu? Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire avant?
On ne me comprenait pas. Personne ne me comprenait.
Et là, d'avoir pu expliquer les choses, petit à petit, ils ont commencé, là, on parle, la discussion s'est instaurée et ils ont commencé gentiment à comprendre que finalement, bah, sur ces difficultés qu'ils percevaient de vous, bah, il y avait peut-être des hypothèses de compréhension et ça, parce que vous avez réussi à commencer à dialoguer avec eux.
Je n'ai pas trop suivi ce que vous dites, mais... C'est vrai, c'est peut-être ça. Ouais.
Alors, c'est une hypothèse. Alors, je ne sais pas pour les autres autour de la table. Delphine, bonjour Delphine, bienvenue parmi nous. Delphine, ça fait plaisir de vous retrouver, une habituée aussi. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Sur cette question que j'ai posée tout à l'heure, quel positionnement vous avez sur finalement quelle place des proches aidants et notamment de la famille dans le rétablissement?
Ben, pour moi, ce qui est important, c'est que dans la famille, on ne parle pas de la maladie et c'est aussi quelque chose qui aide. Un endroit neutre où on peut parler de tout, sauf de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui aide, pour moi en tout cas.
Merci. Alors, je ne sais pas si on a d'autres qui ont envie de peut-être échanger autour de cette question. Gabriel, bonjour Gabriel.
Rebonjour. Alors oui, moi je trouve que le sujet il est intéressant, puisque là, finalement, on est autour d'une table. On est ensemble, on est dans un parc qui symbolise bien le ensemble, puisque dans un parc, on se croise du regard, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation, genre des murs, etc., etc. Je pense que tout ça, et même la radio, de pouvoir parler, et puis que, ben, éventuellement, pour les auditeurs, il n'y a pas de différence sur qui parle, il n'y a pas. Et je pense que c'est cet aspect un petit peu d'être horizontal. Les uns avec les autres. Et ça, je pense que c'est aidant. Je n'aurais plus ton prénom.
Mathieu.
Mathieu, ce que tu as dit, c'est génial, c'est hyper touchant. Je suis très fier d'avoir pu t'entendre dire tout ça. Voilà, par exemple.
Alors, on apprend, c'est pas inné d'échanger sur ces thèmes aussi difficiles. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de rencontrer des parents qui, à la suite de ces rencontres à travers Pro-Famille ou ces groupes de parents, pour eux, ça a été quelque chose de très, on pourrait dire, salutaire, hein, où ils sont déjà dit, bah, on est entouré d'une problématique qu'on vit ensemble, des difficultés communes, et il y avait plus ce sentiment d'être seul face à ces difficultés et de se sentir plus, on pourrait dire démunis, hein, parce qu'on est démunis, hein, j'ose pas imaginer, moi, mes enfants, ils ont 14-16 ans, pour l'instant, je touche du bois, est-ce que le jour où il y aura une problématique, comment je serai peut-être, on dit c'est le cordonnier souvent le moins bien chaussé, mais de me dire qu'il y a des groupes où les familles peuvent se rencontrer pour échanger de leurs problématiques et s'échanger aussi des tips, et peut-être aussi avoir cette approche de professionnels qui peuvent aussi répondre à des questions, permettre de mieux comprendre finalement poser des perceptions sur des ressentis ou sur des inquiétudes et peut-être des fois de faire diminuer ce seuil d'inquiétude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que la communication permet de comprendre les choses, d'aller à la rencontre de l'autre et qu'on a des structures qui permettent de pouvoir le faire tous ensemble et de pouvoir apprendre de l'autre. En tout cas, on se quitte quelques instants après cette musique proposée de Soldat Louis qui s'appelle Du Rhum des Femmes. Du Rhum des Femmes, je crois. Ça s'appelle comme ça. À tout à l'heure. De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est 15h48, on est au plein cœur du parc de Malévaux. Pour ceux qui veulent venir nous rencontrer, n'hésitez pas, on est devant la cafétéria. Alors on va aborder un thème qui a été proposé par nos participants du jour, un thème qui est quand même un thème universel, en tout cas qui devrait l'être ou qui ne l'est pas, à voir selon nos échanges, ce thème de l'égalité. Bonjour Mathieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez aussi été parmi ceux qui ont voulu aborder ce thème-là sur l'égalité? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de parler de ça aujourd'hui?
Moi je trouve que il y a pas mal de gens qui sont défavorisés par rapport à ceux qui ont de l'argent. Voilà.
Donc vous nous amenez que finalement, il y a et quand vous dites ça, c'est mondialement ou est-ce que c'est déjà même ici en Suisse?
En Suisse.
Et comment vous constatez ça?
Comment je constate ça? Toutes les petites épiceries.
Alors, vous pouvez essayer, monsieur Ibrahima. Venez d'ailleurs, venez quelques secondes, parce que vous étiez parti parmi ceux qui avaient envie de parler de l'égalité. Est-ce que vous avez envie de nous dire ce que représente l'égalité pour vous? Venez seulement. Alors, le temps qu'on vous équipe d'un micro. Alors, voilà. Alors, Que représente pour vous l'égalité, Ibrahim ?
En fait, dans la vie est très simple. C'est nous, les êtres humains, qui sont compliqués. Par contre, moi, j'ai vécu beaucoup de choses et, en fait, dans ma vie. Je suis arrivé en Europe, j'étais mineur. J'ai vécu beaucoup de choses. En fait, jusqu'à présent, j'entends de souffrir. Et en fait, je trouve, nous, les êtres humains, on est méchants. Tous les êtres humains. C'est nous qui compliquons le monde. Et du coup, en fait, moi, tout ce que je vois dans cette légalité, on n'est pas dans l'égalité. Puisque, imaginons en Afrique, si un blanc part en Afrique, on lui donne des documents, on lui accueille bien. Et nous, si on vient ici, on nous accueille, mais ils ne veulent pas de nous. Puisque moi, j'ai demandé l'asile en Suisse ici. Ils ont refusé l'asile. J'ai fait le recours. Je ne comprends pas. En fait, j'ai beaucoup de soucis dans ma tête, en fait. Et je ne peux pas tout partager, en fait, quoi, puisque j'aimerais garder pour moi-même, vous voyez.
C'est ce qu'on peut comprendre tout à fait. En tout cas, ce que vous nous exprimez, Ibrahima, c'est qu'il y a certains pays où c'est plus facile d'être accueilli et dans d'autres un peu moins. Et puis, peut-être qu'il y a aussi cette réalité, c'est que vous avez peut-être des gens que vous connaissez à qui, bah, pour des raisons particulières, le parcours a été plus facile et on réussit aujourd'hui à avoir peut-être... avec des critères qui sont très précis, ont réussi à avoir la possibilité d'être accueillis par la Suisse et qu'il y en a d'autres comme vous qui ont plus de difficultés à se faire accueillir, ouais, reconnaître.
Ça. C'est pour cela que je vous ai dit, le monde est cool, c'est nous les êtres humains qui sont compliqués.
Ouais, parce que vous pensez que finalement c'est une question d'être humain qui fait qu'on n'accueille pas les gens et ouais, que finalement... pourquoi on accueille un et pas l'autre, c'est parce qu'on n'est pas équitable et puis que si les humains étaient tous cool entre eux, on accueillerait tout le monde. Mais est-ce que, j'ai envie de poser la question, si en Suisse, alors sans faire le lien avec les dernières votations, parce qu'on peut quand même, c'est un thème quand même qui est là, mais sans faire le lien avec ça, est-ce que concrètement, on pourrait, si on parlait dans quelque chose qui serait un petit peu idéaliste, se dire, mais tous les pays devraient accueillir tout le monde sans restriction, sans rien, est-ce que ce serait réellement possible ?
Ce serait possible, puisqu'en Afrique, on accueille tous les Blancs qui parlent là-bas. Et moi, j'avais beaucoup de rêves. Lorsque j'étais petit, je rêvais de faire de la musique, de la théâtre. Mais l'avenir, en fait, a tout cassé, en fait, quoi. Maintenant, j'ai oublié maintenant mes rêves. Maintenant, je suis dans des autres débats, en fait, vous voyez. Et je ne me sens pas bien. J'essaie de rigoler avec les gens, de sourire, mais ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête.
Bah, je comprends. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir aborder jour après jour et essayer de comprendre et de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour qu'on puisse peut-être aussi reconnaître la valeur que j'ai pour le pays dans lequel j'aimerais vivre. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus personnel et que vous aurez l'occasion d'en discuter peut-être une fois ensemble ou avec d'autres personnes. Gabriel.
Oui, moi j'écoute ça avec... Merci à toi. J'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que, mais il a raison, l'égalité dans les faits, il n'y a pas d'égalité dans les faits. Il y a un idéal d'égalité. Moi, je pense qu'actuellement, on n'est pas dans un système, bien sûr, qui est égalitaire, mais il y a certains endroits où ça s'améliore. Malheureusement, il y a d'autres endroits où ça devient moins bien. Mais qu'aujourd'hui, on est plus dans une société qui est plus égale qu'il y a 100 ans, par exemple, mais que ça reste un idéal qu'on n'a pas encore réussi, ni en Suisse, ni en France, ni nulle part, à vraiment, on n'a vraiment jamais réussi à acquérir partout. C'est un idéal, c'est comme la justice.
C'est comme la justice, c'est un idéal. Alors, on a des jeunes autour de la table, hein, peut-être que vous parliez dans le passé, dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on a souvent parlé de l'égalité homme-femme, que ce soit dans les professions, que ce soit dans les salaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on est réellement tous égaux ou pas, Erina ?
Alors, on a fait quand même beaucoup de travail pour en arriver là. Il y a quand même plein d'améliorations qui se sont faites, je trouve. Après, c'est pas gagné, hein. Il reste toujours du travail à faire. Et puis voilà. Mais je trouve qu'on est pas mal, déjà. Si on compare à 20, 30 ans en arrière, on est déjà plutôt pas mal au niveau d'égalité. Là, je vous dis pour hommes et femmes. Voilà.
Alors, vous avez raison qu'on a fait déjà un grand bond. Hein. Je rappelle, et on l'avait cité il y a quelques mois de ça en arrière, dans certains cantons, on votait à la Landsgemeinde, ça le fait encore toujours, mais le droit de vote en Suisse pour les femmes, est-ce que quelqu'un a la date ? Elena. Alors, Delphine. Bonjour Delphine.
68.
Alors, peut-être Romain, non ?
71.
71, oui. Donc, c'est pas si vieux que ça, hein, 71. On est en 2026, ça a l'air rien du tout, 71. Alors, pour peut-être...
Ah, mais elles ont le droit de vote actuellement ?
Hein ?
Les femmes ont le droit de vote actuellement ?
Alors, actuellement, les femmes ont le droit de vote, oui, Gabriel. Non, mais c'est pour dire que l'égalité, qu'est-ce que c'est l'égalité, hein, finalement ? Aujourd'hui, on a encore des grosses inégalités, et ça, à tout niveau, hein, salarial, peut-être même à des postes. Hein, on a des fois des postes où on a encore une majorité d'hommes avec cette pensée très patriarcale, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais qui fait qu'aujourd'hui, on doit encore se battre pour qu'il y ait une égalité en femmes à certains niveaux. Eliane, vous qui avez grandi, vous faites partie autour de la table des générations les plus aînées, de votre enfance, de ce que vous voyez de votre grand-mère, et aujourd'hui la place que vous avez vous et que vous voyez pour les jeunes venir, qu'est-ce qui a changé réellement dans cette égalité homme-femme ?
Moi, je pense c'est surtout au niveau des émotions. Enfant, on nous disait il faut pas pleurer. Ça se fait pas. On avait tous ces a priori par rapport à plein de choses. Et on avait très peu de liberté. Moi, je me souviens, je rentrais de l'école, il fallait faire mes devoirs. Après, il fallait aider à la maison ou à la ferme, les animaux. Et on n'était pas malheureux parce qu'on jouait dehors, on courait partout. Les parents devaient hurler pour nous rappeler le soir pour qu'on rentre. Mais ça, je dirais, ça a énormément évolué. Quand on pense, moi j'ai connu la télé noir et blanc, pas de portable, ce qui était absolument fantastique, parce que maintenant, souvent deux personnes sont attablées, mais chacune avec leur natel, mais à chacun son époque. On s'adapte, et puis ça va, mais on a vécu, j'ai vécu une enfance extraordinaire, par rapport à la liberté d'expression, les jeux... l'unité, mais c'est vrai que à l'époque il y avait beaucoup, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, des secrets de famille, des choses qu'on assume et peut-être 20-30 ans plus tard, parce que ça se faisait pas, ça se disait pas. Donc beaucoup de personnes de ma génération ont connu la même chose que moi. On a appris 30 ans après que voilà, la maman de ma maman n'était pas sa vraie maman, par exemple. Mais des choses que maintenant n'existent plus parce qu'on est plus libre, on est plus ouvert. Donc c'est peut-être plus facile au jour d'aujourd'hui de pouvoir s'exprimer et peut-être aussi de recevoir de la tendresse et de l'affection parce que nos parents, enfin mes parents, non, ils se sont fait jeter de la maison à 15 ans avec la valise. Hein, je veux dire. Mais il n'y en a aucune photo de famille où on se touche, où on se tient la main. Ça n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existait pas. Voilà, un peu ce qui se passe dans ma génération.
Merci de votre partage. Delphine, au sujet de l'égalité. Alors ça peut être, en continuant sur cette égalité homme-femme, ça peut être en sens général hein, de l'égalité. Votre position ?
Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas... Il y a de l'égalité en soi entre les hommes et les femmes. Mais moi, j'aimerais partir plus sur un autre sujet, qui est l'inégalité... À notre naissance, je vais dire l'inégalité de comment est construit notre cerveau à la naissance. Je vais parler des neurotypiques et des atypiques. J'ai l'impression que dès la naissance, certaines personnes sont câblées d'une autre manière. Et déjà, à partir de là, il y a déjà des inégalités. Et ben, voilà.
Merci, mais vous avez raison. Peut-être que Gabriel va pouvoir rebondir là-dessus.
Ben, c'est fantastique d'entendre ça. Oui, c'est vrai que... mais est-ce que l'égalité, c'est être tous exactement pareils, fastoche, d'être égal si on est tous pareils, ou est-ce que l'égalité, c'est pas un idéal qui doit justement permettre de compenser les différences des personnes qui sont neuroatypiques, donc qui vont peut-être pas avoir la même relation avec les stimulations, avec la solitude, avec le plaisir, avec la rencontre de l'autre. Est-ce que l'égalité, ce serait pas plutôt de chercher une équité, que les gens qui sont différents puissent bénéficier d'un effort supplémentaire et que ceux qui ont des facilités soient tout au moins rendus conscients du fait qu'ils ont des facilités. Peut-être que c'est un petit peu plus que l'égalité, c'est peut-être l'équité qui serait à réfléchir, enfin, si c'est un peu ce que tu dis.
Alors, allez-y, Delphine.
Oui, je pense que, comme je comprends ce que vous dites, c'est que chacun pourrait apporter un peu de compétences à l'autre qui n'a pas, mais j'ai l'impression que ça marche pas comme ça dans ce monde, qu'il y a trop de différences. Pour moi, c'est trop différent, les neuroatypiques et les atypiques.
Alors, la question, c'est surtout de se dire, je l'ai déjà cité dans certaines émissions, Albert Jacquard disait « Personne n'est égaux de être et naître ». Et vous avez raison, on est tous avec des différences. Mais est-ce que c'est finalement ces différences qui font qu'on fait cette beauté de ce monde, mais que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas avoir la même équité? Et c'est là peut-être le questionnement à se faire. Est-ce que obligatoirement parce qu'on a un trouble psychique, qu'on n'a plus de valeur? Est-ce que simplement parce qu'on a une maladie, ça veut dire qu'on n'est plus capable de... Non, on a la possibilité de pouvoir, malgré les cassures de la vie, avoir de la valeur et de pouvoir dire des choses. Et en ça, on doit se dire qu'on est tous égaux, qu'on a tous la possibilité de s'exprimer, alors peut-être de manière différente, mais on doit pouvoir donner cette parole libre à chacun de pouvoir se dire « j'ai de la valeur et voilà ce que je suis et comment je suis indéfiniment de... » Effectivement, moi je suis né petit, peut-être un peu trapu, et puis quelqu'un qui est beaucoup plus grand, mais finalement pour lui la facilité ce sera d'aller chercher plus haut, puis moi d'avoir moins mal de dos. Mais finalement qu'est-ce qui est l'équité? Mais en tout cas je suis assez sensible sur le fait que personne n'est égaux, et c'est pas une raison pour en faire une stigmatisation ou autre. Gabriel.
Oui, c'est ça, c'est la stigmatisation, c'est le fait que les personnes, on leur fasse porter une deuxième inégalité en les jugeant d'une part, en ne reconnaissant pas leurs difficultés d'autre part. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Eh ben merci d'avoir pris le temps d'échanger autour de ce thème qui pourrait, effectivement, on pourrait prendre un peu plus de temps toujours dans nos thèmes qu'on aborde, mais l'heure avance, on avance gentiment. Là, on va partir pour un freestyle, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir autour de la table, en tout cas, on a un artiste FZ qui est là autour de la table. Hein ? Alors, le temps qu'on mette la prod en route... Alors déjà, avant qu'on se lance, comment s'est construit ce morceau et en quelle année il a été fait, hein, Bruno?
Jean Nussler du Chablais. Ce son a été créé en 2021, à la suite des différents parcours dans ma vie qui ont fait que j'ai commencé à écrire. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas... le montrer aux gens, en fait. Et ouais, du coup, je les ai publiés et puis quelques personnes ont apprécié.
Alors, on va pouvoir entendre un extrait, parce que la meilleure des choses, c'est pas mis en nomade, c'est aussi de donner la possibilité à des écrivains, des artistes, à des gens qui ont des projets, de venir en parler, de venir se faire connaître. La meilleure des choses, c'est qu'on lance un bon son et on vous écoute.
Et c'est parti.
Alors, le temps que notre technicien... Je remercie d'ailleurs Pascal Vigolo à la technique, hein, non pas pour la latence, mais pour tout le travail qu'il fournit déjà depuis de longues années. C'est parti.
C'est déjà mon nom, elle est bombée, donc je lui dis pas non. C'est férié, donc on monte le son. Je t'embrasse pas, c'était pas bombé, on se casse pas tant que la bouteille qu'il est. J'suis une resta, donc j'suis au carré, fais pas de faux pas, sinon ça va shooter. Y'a pas de choses, moi je dirais pas, y'a des gens qui dénoncent pas, c'est ce qu'il faut, encore une kiff taille, j'pars à Mar-a-Lago. C'est trop bon, il y a des choses qui relèvent sous certaines conditions. Je connais la règle, si c'est dit. Je suis dans le club, elle sait déjà mon nom. Je suis blindé, donc elle dit pas non, c'est férié, donc on monte le son. Je suis pété, je m'apprends pour ton nom, elle est bombée, donc je dis pas non, on va fêter jusqu'à l'addiction. Quand on parle d'un air, on baisse d'un ton, on vénère que Dieu, pas d'exception. Appelle-moi plus tard pour faire tes comptes. J'suis dans le club, elle sait déjà mon nom, j'suis PG, donc elle dit pas non, elle a peur que je la ramène à la main.
Magnifique opus, merci, je pense qu'on peut l'applaudir, parce que c'est quand même pas évident comme ça de se lancer dans un freestyle dehors comme ça dans le parc de Manéo, mais le son est excellent. Bruno de FZ, de votre nom d'artiste, si on veut réécouter le son, où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors on peut le trouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music et puis SoundCloud.
Toute cette plateforme que vous allez pouvoir découvrir, ce fabuleux titre qui s'appelle C Club. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce son.
Merci à vous. Un peu stressant.
Mais c'est normal, hein, je vous rassure.
C'est dur de chanter assis.
Ouais. Alors la prochaine fois, on vous demandera, et on sait qu'il jouait du piano debout, alors on vous demandera de chanter debout. Mmh. Alors, il est temps de passer à notre rubrique science-fiction, rubrique proposée par Gabriel Zegna une fois par mois. C'est parti.
Merde, votre truc.
Science-fiction.
C'est pas ta faute.
Alors, la psy, le ciné, les psys, c'est raconté. Le ciné, c'est raconté. Le ciné, c'est mon psy. Mais Gab, c'est n'importe quoi. Quoi ? Oui, c'est de la fiction. Mais oui, c'est de la fiction. C'est de la science-fiction. La psy, les psys dans le cinéma. À chaque chronique, je vous présente un psychiatre, un psychologue ou un soin dans le cinéma. Alors, rebonjour à tous. Bon, alors, d'abord, commencez par écouter ça.
Tenter de forcer des êtres humains à se mépriser eux-mêmes, voilà ce qu'est l'enfer.
Ah oui, une ambiance sérieuse ? Ah non, pas du tout. Ce film est une mine d'or de phrases folles. Écoutez ça.
Votre livre « Merde à l'humanité » était un vrai régal.
Ça me fait plaisir, je suis plus à l'aise avec les animaux.
Alors oui, là aujourd'hui, je vous présente un psy qui est sans doute le psy qui a le plus besoin de soins. Enfant, il a été traumatisé par des parents obsédés par les bonnes manières. Il décide, après ses études de psychologie comportementale, d'enseigner les bonnes manières à des souris. Bah oui, c'est un scientifique et évidemment, éventuellement, avec des électrochocs. Oui. Déjà, c'est fou. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors, écoutez la suite. Donc, en se promenant avec sa petite amie, frappée d'hirsutisme, donc souvent couverte de poils, il rencontre en forêt un homme nu, élevé lui-même par un père, convaincu d'être un chimpanzé. Alors, la petite amie, qu'est-ce qu'elle fait ? Ni une ni deux. Elle enlève ses habits. Ben oui, il faut se mettre à la portée des gens pour les rencontrer. Donc, normal, je disais. Et il décide de le kidnapper pour, évidemment, lui apprendre les bonnes manières, c'est-à-dire bien se tenir à table. Oui, je sais, c'est des rapports pas très très sains entre eux.
Comment ça va, Puff Bronfman ? Je suis le docteur Bronfman. Et voici mon assistante, Gabrielle. Nous serons ta maman et ton papa tant que tu seras ici.
Oui, alors vous avez le film ? Est-ce que vous avez le psychologue ? Non, alors c'est pas Jimmy. Non, désolé, c'est le docteur Nathan Bronfman dans le film Human Nature, où, comme dans Ghostbusters, on a un combo, on a un psychologue comportementaliste, on a des électrochocs et on a une étude foireuse. Là encore, l'expérience, elle fonctionne. Le bonhomme, il apprend à vivre avec des humains. La preuve, il finit par piquer la copine du psychologue une première fois, une deuxième fois, puis après il en a marre, il retourne dans la forêt.
Je passerai mes jours dans la nudité. Et la liberté.
Merci, monsieur, et bonne chance.
Oui, donc question thérapie. Alors moi, je lui donne la note de 1 sur 20. Nathan, il est un peu faible, il est prétentieux, il n'a aucun discernement, mais au moins, il se tient bien à table, d'où le 1 sur 20. Alors, c'est surtout son assistante qui fait le job. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à comprendre, elle se met à la hauteur, elle avance au rythme de la personne, elle respecte sa nature. L'empathie, la congruence, le regard positif, le respect inconditionnel. Est-ce que quelqu'un l'a à table ? Alors évidemment, je parle de l'approche centrée sur la personne. Je parle de Carl Rogers. Oui, bon, Jimmy me fait signe, c'est un petit peu tiré par les cheveux, certes. Mais pour une fois qu'on peut parler d'un des plus grands contributeurs à la relation de soins, alors moi j'y vais. Merci, à bientôt.
Le direct.
Magnifique rubrique, merci Gabriel de cet échange. D'ailleurs, Human Nature, le nom du film. Alors, ça m'a pas donné tellement envie d'aller le voir. Alors, c'est comme ça. Alors, je sais pas pour ceux qui nous ont écoutés autour de la table ou qui nous écoutent ou qui nous réécouteront en rediffusion. 1 sur 20 au vu de ce que vous nous avez expliqué. Je crois que ça vaut pas plus, mais de toute manière, 0. Je crois que c'est interdit maintenant de mettre des 0 hein, à l'école. On peut plus mettre de 0, à part pour tricherie, peut-être encore. Mais il me semble qu'on a même plus le droit de mettre de 0. Et puis, plus à l'aise avec les animaux qu'avec les hommes. Est-ce que vous-même, vous êtes plus à l'aise avec les animaux que les hommes ?
Je ne sais pas la différence.
Vous ne faites pas la différence. Eh bien, on a entendu parler alors deux termes que peut-être autour de la table, on va s'arrêter quelques secondes, c'est l'empathie et la congruence. Est-ce que le terme congruence vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est la congruence? Eliane?
Dites-le-nous.
Alors, je ne sais pas, alors, est-ce que qui pourrait me donner peut-être une ébauche ou de se dire, bah, tiens, je vais expliquer ce qu'est la congruence, Delphine. Alors, une fois de plus, ce n'est pas un examen, ce ne sera pas noté, Delphine. Hein, puis de toute manière, rien que par le fait d'avoir voulu le faire, vous avez un 6 sur 6 ou un 20 sur 20 en France.
Alors, pour moi, la congruence, c'est être en accord avec ses faits et ses gestes.
Oui, c'est justement dit.
C'est vraiment ça. Alors l'origine, le mot congruence, il me semble, il vient de la danse. Il vient de quand on danse à deux, être capable de suivre les gestes de la personne avec qui on danse. Donc genre il fait un pas en arrière, on fait un pas en avant. Et ça, c'est faire preuve de congruence. Et dans la relation, faire preuve de congruence, c'est justement épouser le dialogue, épouser la personne dans ses difficultés, dans où est-ce qu'elle en est par rapport à ses émotions. C'est se mettre à la bonne hauteur par rapport à ça. Si la personne nous annonce un truc grave, bah, c'est pas le moment de placer une blague. Ou au contraire, s'il a envie de rigoler, c'est pas le moment de... Voilà, donc faire preuve de congruence, c'est s'adapter à la personne.
Bah, merci. Et l'empathie?
L'empathie, c'est savoir se mettre... savoir comprendre l'émotion de l'autre sans se mettre dans l'émotion.
Voilà, sans la subir et sans la porter. Franchement, bravo Delphine, parce que je sais que c'est quand même pas rien. Merci hein, d'avoir pris le temps de répondre. Et en plus, ça a été fait avec manière très simple, je ne sais plus le terme, Gabriel, vous n'allez même pas m'aider parce que vous n'allez pas me dire dans ma tête.
On va galérer pour chercher le mot.
Voilà, laissez-moi galérer, mais ce n'est pas grave. On va passer à un deuxième freestyle proposé aujourd'hui par Mathieu. Mathieu, vous avez décidé de faire un petit freestyle sur une chanson de Brasco qui s'intitule Vagabond.
Non,
c'est pas ça. Alors, quel était le nom du freestyle? Ah non, c'était Nino Binks to Binks Party. Excusez-moi, j'ai interverti les morceaux, mais ça arrive, c'est le live. Alors, le temps qu'on vous équipe, le temps qu'on cale la bande-son, et puis dès que nos techniciens nous disent c'est bon, allez, c'est parti, à l'écoute sur Pavillon Nomade, Mathieu, la chanson de Nino, Binks to Binks, partie 2. Alors, partie, est-ce que c'est parti? C'est pas parti. Partie de où? Je sais pas. Partie de la boîte à rythme? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce magnifique parc de Malévo. Parc où il fait chaud. Hein. On a chaud d'ailleurs. Pensez déjà tous à vous hydrater. C'est important. Hein. Je fais un petit aparté, mais on est en temps général, on est censé boire 1,5 litre d'eau par jour. Là, il va falloir effectivement boire un petit peu plus. Et aussi parce que des fois, les traitements qu'on prend où on doit quand même faire attention d'y s'hydrater correctement. Donc je vous invite à cette partie 2 de Binks to Binks partie 2 de Nino. C'est parti en direct. Mathieu, c'est à vous. Alors, je crois que...
Il faut l'instru.
Je crois que... Alors, de toute manière, ça, c'est la beauté du live. Hein. Et je ne connais aucune radio, je ne connais aucune émission TV en direct qui n'a jamais eu de problème technique et de voir le présentateur ou l'animateur galérer à trouver de quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là entre nous et qu'on n'arrive pas à lancer le son. Alors, est-ce que...
4, 5, 7...
Alors... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être on passe Vagabond de Brasco et on terminera l'émission avec le freestyle parce que je suis sûr d'ici là on aura trouvé et on aura calé. Donc on se retrouve dans quelques instants après la chanson de Brasco qui s'intitule Vagabond.
Ma mère se tue à me dire boss fais la thune.
avant que je deal, que je fasse couler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être tôlard, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles. À chercher une plante, j'ai failli acheter une tente. C'était à base de tu faut rien, trouve du travail, bouge ton cul tous les matins. Mets une veste et une cravate et puis ton rap pète les oreilles ici. Y'a des lois, tu traînes, ça fait des mois. Non, je veux plus de ça chez moi. Squatter le hall, tu trouves ça attirant? Si t'aimes tant la rue, je mets ton matelas devant le bâtiment. C'était ses phrases préférées, je pensais que j'étais à l'armée. Je suis parti sans regret, sans savoir où aller. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Je suis pas prêt de me mettre à table. J'ai toujours prouvé aux proches que je suis un mec à part et pas un mec capable. Loin de Guada et de mes parents qui s'inquiétaient, je les rassurais en vrai. J'étais dans un sale pétrin, c'est là que les galères ont commencé. Je me suis accroché, chaque soir je me demandais où je vais pouvoir me coucher, où je vais pouvoir me toucher. J'avais plus beaucoup d'amis, c'était chaud quand mes habits sentaient les égouts de Paris. Fatigué à force de faire le va-et-vient chez les potes dans les trains. Mais le pire c'est quand t'as faim, trop de fierté pour fouiller les poubelles qui traînent. Qu'est-ce que je ferais pour des frites et un Mac Chicken? J'ai une meuf qu'elle m'invite chez elle ou à l'hôtel. Bien sûr si elle paye, sinon c'est pas la peine. Je suis pas un top modèle mais je sais les charmer. Tout ça pour pas dormir dans des cages d'escalier. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure si je pouvais, je la quitterais. J'ai côtoyé celui qui mendiait avec sa guitare, celui qui faisait le pickpocket sans se faire tricard, celui qui croyait que le RER était son plumard. Je voyais parler tout seul avec sa bouteille de pinard. Les contrôleurs troublaient mon sommeil, me chauffaient la tête. Je prenais les PV pour me torcher avec. Je connais le métro, ces coins sales, ces clodo, ces touristes qui te saoulent avec leurs appareils photo. En hiver, j'étais obligé de squatter les stations pour me tenir au chaud jusqu'à la prochaine saison. Ma maison, c'était mon sac à dos. Je l'avais tout le temps, brosse à dents, gants de toilette, bref, y avait tout dedans. Je rêvais d'appartement avec véranda pendant que ma situation m'attirait vers le bas. Mais j'ai su me relever, éviter le fiasco. Je ne suis plus ce vagabond, tu peux m'appeler Brasco. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais.
Magnifique morceau de Brasco qui s'intitule Vagabond. Je pense que cet artiste est allé à découvrir, en tout cas j'irai. J'espère que toutes ces chansons vont me faire en tout cas réfléchir et penser comme celle-ci. On arrive à la dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement incontournable du début de l'été, la fête de la musique. Chaque année, le 21 juin, amateurs et professionnels se réunissent dans les rues, les places, les parcs et les salles de spectacle pour partager leur passion de la musique. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cette fête? Pourquoi est-elle créée? Quelle place la musique obtient-elle dans nos vies et dans notre bien-être? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans ces dernières parties. Mais petite historique de la fête de la musique. La fête de la musique est née en France en 1982 à l'initiative de Jacques Lang, et oui, ça remonte, hein, alors ministre de la Culture, et de Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse. Leur idée était simplement permettre à tous les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de jouer gratuitement dans les espaces publics et de rendre la musique accessible à tous. La date du 21 juin n'a pas été choisie au hasard, bien sûr. Elle correspond au solstice d'été, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Depuis sa création, la fête de la musique s'est exportée dans de nombreux pays. Aujourd'hui, elle est célébrée dans plus d'une centaine de pays et dans plusieurs centaines de villes à travers le monde. La musique accompagne l'humanité depuis des milliers d'années. Elle permet d'exprimer des émotions, de créer du lien social, de célébrer, de se recueillir ou simplement de se divertir. Eliane, alors, vous avez une question de départ que vous avez envie de poser. Alors, je vous laisse peut-être vous équiper du micro, sinon on va...
Oui, bien sûr, ça ira mieux, effectivement. J'aimerais savoir si vous participez régulièrement à la fête de la musique.
Alors, qui autour de la table participe régulièrement à la fête de la musique? Alors, il n'y a pas grand monde. Alors ça, je suis étonné. Gabriel?
Y participer dans le sens faire de la musique ou écouter de la musique?
Ah, mais c'est bien de faire la différence entre les deux.
Alors, écouter de la musique, oui, je pense à la fête de la musique. Je me dis, on est le 21 juin, je suis en train de rater la fête de la musique parce que je suis en train de travailler. Est-ce que c'est participer, ça? Non, peut-être pas.
Non, peut-être pas, non. Mais déjà, d'écouter de la musique, je pense, c'est une participation
oui.
en soi. Hein. Mais... il y a des artistes qui le font chaque année, notamment en France, quand il y a le printemps de Bourges.
Moi, j'ai les images des premières fêtes de la musique en France. Mm-hmm. Et c'était génial parce que c'était vraiment n'importe quoi. Il pouvait y avoir un type qui fait de l'accordéon, de la flûte, n'importe où. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait un programme avec la commune pour dire est-ce que je pourrais faire des reprises avec mon groupe. C'était vraiment... tout le monde faisait de la musique à leur niveau, n'importe où. Donc à 10 mètres d'intervalle, flûte traversière ou guitare électrique.
Allez-y, Eliane.
Pardon. C'était bien parce que justement, c'était pas réglementé, Gabriel le dit. Et il y avait de toutes sortes, et même des gens qui jouaient de la flûte traversière en France. Puis après, il y avait un groupe de rock. Moi, je trouvais absolument fantastique cette variété, en fait, dans la musique.
Alors moi, c'est les souvenirs que j'ai. Moi, j'ai participé à de nombreuses fêtes de la musique, parce que la musique a accompagné ma vie. J'ai même essayé à un moment de faire un peu de musique. Mais les souvenirs que j'ai, c'était d'avoir ces moments où on pouvait se balader en ville et on pouvait effectivement avoir... Alors, il y avait du très bon, comme du moyen, voire... Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on était tous réunis par l'envie de partager à travers le son, à travers la musique. Et j'ai fait des fois des découvertes incroyables de tout petits groupes qui était en essor d'éclore, mais moi j'en ai participé quelques-unes. Alors avec les années, il a fallu faire un peu moins, les enfants sont nés, mais on l'a aussi fait souvent avec les enfants, parce que c'était aussi une manière d'éduquer aussi notre jeunesse à cette culture musicale et à ce qu'elle peut nous faire vivre.
Et puis en plus, alors on a parlé d'égalité, on a parlé de tout ça, et c'était un moyen très très ordinaire, très égalitaire de pouvoir écouter de la musique. Faut pas oublier que aujourd'hui, maintenant, aller à un concert, ça coûte cher. Un festival, c'est devenu plus ou moins hors de prix, et encore, c'est que le billet d'entrée. Et la fête de la musique, c'est encore un des derniers moyens d'avoir accès à de la musique moderne, diversifiée, plus ou moins gratuitement, enfin même totalement gratuitement.
Totalement gratuitement, parce que c'est un peu le but de la fête la musique. Mais si on part d'un point de vue un petit peu plus large, pourquoi, selon vous, la musique touche-t-elle autant de personnes? Selon vous, Irina?
C'est aussi un moyen de communication, des idées. C'est principalement ça.
C'est vrai que c'est un moyen de communication. Et je sais, dans certaines régions, on communique mais de manière très lointaine. On communiquait avec des tambours, on communiquait avec des chansons. Ce qu'on appelait les troubadours à l'époque, au Moyen-Âge, ils allaient chanter, ils allaient colporter, on pourrait dire, à travers les récits des chevaliers. Ils allaient dans les villes, du Moyen-Âge, il y avait comme des marchés, comme ça, puis ils allaient là-bas, ils allaient chanter pour communiquer, pour faire passer la mémoire, peut-être, des anciens chevaliers.
Tu m'as fait voyager, là, les tambours, les chevaliers, là.
Eliane.
Est-ce que, autour de la table, il y a est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne tous les jours de votre vie, ou une chanson que vous avez eue dans la tête pendant de nombreuses années.
Ça, c'est une très très bonne question, Eliane. D'ailleurs, on a Delphine qui va nous faire.
Moi, ma chanson qui m'accompagne, c'est Mon amour de Slimane.
Très belle chanson, Mon amour de Slimane. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez-y, elle est magnifique. Ah, Diana, bonjour Diana.
Bonjour.
Alors, quelle chanson pour vous vous accompagne dans votre vie le plus souvent ?
Alors, moi, la chanson qui m'accompagne depuis très très longtemps, c'est Diamonds de Rihanna. Parce que je trouve que Rihanna, c'est une très très grande chanteuse mondialement connue. Et je trouve ça dommage qu'elle ait tout arrêté comme ça du jour au lendemain.
Alors, c'est sûr que moi, je ne savais pas qu'elle chantait plus du tout, Rihanna, moi. Je pensais qu'elle faisait encore des festivals. Elle a complètement arrêté dans l'écriture ou est-ce qu'elle se produit encore ?
Alors, je ne sais pas si elle continue à écrire ou quoi que ce soit, mais la dernière fois, en tout cas, c'était au Super Bowl. Donc, c'était un moment très magnifique pour les gens qui aiment Rihanna, très historique, je trouve. Donc, voilà.
Merci. Et Gabriel, est-ce que vous, il y a une musique comme ça qui vous accompagne, assez, on va dire, la plupart du temps, non, mais régulièrement dans votre vie ?
Cette question, elle est terrifiante parce que ça m'oblige à devoir choisir une chanson parmi plein. Alors, il y a toutes les autres chansons qui vont être là. Non, mais pourquoi tu ne m'as pas choisi, moi ? Donc, non, c'est assez compliqué. En plus ça dépend beaucoup de l'émotion du moment. Je pense qu'il faudrait, je pense, se dire si je devais partir sur une île déserte et que je devais emmener une cinquantaine d'albums, lesquels je prendrais. Là c'est déjà assez compliqué, je trouve, comme question.
Mais vous avez raison, parce que même moi, je vais essayer de me la poser à moi-même quand j'ai construit les questions. Je me suis dit, mais si on me pose la question, mais je vais répondre quoi? Je vais être comme vous. Moi, j'ai trop de chansons. Par contre, j'ai des chansons qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Vous parliez d'émotions. Il y a ce que je trouve magnifique dans la musique, c'est qu'elle va nous faire voyager, transporter, des fois nous rappeler des bons, mais des fois aussi des mauvais souvenirs. Moi, il y a des chansons qui me rappellent des fois des périodes un peu plus difficiles de ma vie, mais qui, malgré tout, m'ont construit aussi. Et je suis le père, l'homme, le soignant, l'humain que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Du coup, la question qui me vient quand je vous entends parler d'émotions, de souvenirs, est-ce qu'on peut utiliser la musique comme outil thérapeutique alors ? Alors, je vois plein de têtes qui disent oui. Alors, on va donner la parole à Irina et après, on la redonnera à Delphine. Irina.
Bien sûr, c'est un moyen de communication. On peut l'utiliser aussi comme moyen thérapeutique. C'est un moyen par lequel, après, ça dépend des personnes, hein, mais il y a d'autres personnes, enfin, certaines personnes qui s'expriment mieux à travers des paroles, la musique, et puis d'autres un petit peu moins. Mais du coup, oui, c'est un moyen pour sortir, on va dire, ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos pensées, nos émotions.
Voilà. Merci. Delphine ?
Pour moi, la thérapie par la musique, pour moi, c'est plus l'écoute. L'écoute de la musique et ressentir l'émotion de la musique.
Vous avez raison, tout ce que vous avez dit, c'est juste que finalement, être thérapeutique, ce qui nous fait du bien. Donc il y a autant de choses qui nous font du bien qui peuvent être évidemment thérapeutiques. Mais on parle de musicothérapie, on parle aussi de thérapie à travers, on prend les ondes hertziennes, hein, l'onde elle-même du son est une musique. Hein, et on a aussi ces bols tibétains qui sont souvent utilisés dans certaines approches, on va dire, de mise en transe ou de bien-être, où on va aller taper le bol, où on va aller entendre ce son, c'est musical. Et ça peut nous amener à être dans une pleine conscience si on est dans cette recherche-là, ou simplement nous faire du bien. Gabriel.
Ah, j'avais pas pensé au côté méditatif de la musique ou des sons. Et mais là, du coup, ça veut dire qu'on va devoir parler de plus que de la musique, mais du son en général, le bruit des oiseaux, le bruit de la forêt, le bruit de la mer, les choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme de la musique ? Je ne sais pas.
Moi, je pense que c'est comme de la musique, parce que tout est musique finalement. Est-ce que le vent, la manière dont il va passer à travers les feuilles de l'arbre ou à travers une chaise va avoir une incidence. Donc, j'ai envie de dire à méditer, et peut-être ça sera l'occasion d'un futur débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je recherche maintenant. Au-delà des concerts, des festivités, cette journée nous rappelle que la musique est un formidable moyen de partage, d'expression et de rencontre. Elle traverse les générations et les cultures et les frontières pour rassembler les personnes autour d'émotions communes, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, que vous soyez musicien, chanteur, mélomane ou simplement curieux, n'hésitez pas à profiter de cette fête pour découvrir de nouveaux artistes, écouter des sons différents et surtout partager un moment convivial. D'ailleurs, en parlant de moments conviviaux, je vous rappelle que la ville de Monté et le MQC Malévo Quartier Culturel ont le plaisir de vous convier à la fête de la musique qui se tiendra dimanche 21 juin dans ce parc ici même, devant le petit Mazo, si le temps le permet. À cette occasion, un brunch vous sera proposé mettant à l'honneur les récoltes du jardin de Malévo. Ces produits seront transformés et cuisinés avec soin par les ateliers d'intégration socio-professionnelle du quartier culturel. Alors, le brunch commence à 11h jusqu'à 14h. Les concerts, c'est de 11h30 à 16h. Et au programme, nous avons Hugo Fretti, ce sera du hip-hop. On a God Blues, c'est du rock blues. Et Asia Jean, c'est de la pop. Donc, il y a encore des places disponibles pour cet événement. Hein. C'est 30 francs par adulte et moins de 12 ans, 15 francs. Donc, si vous voulez y participer, il reste quelques places. Allez vite sur le site lafetedelamusique.ch de Monté pour vous inscrire. Et j'espère que vous allez passer un bon après-midi, aussi bien que j'ai eu l'occasion de le passer avec vous cet après-midi. Notre émission touche gentiment à la fin. Ce que vous allez nous retrouver jeudi prochain, ce sera Marie-Claude Cudry d'ailleurs que vous aurez aux commandes de l'émission. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci aux participants du jour, et on va se quitter avec une chanson. Ça, vous savez quoi, Pascal Vigolo, que je remercie une énième fois d'être là parmi nous, il va nous lancer une petite musique. Je vous laisse découvrir, on se retrouve la semaine prochaine. One more.